Très bien. Alors parlons un peu de l'avenir maintenant de la documentation scolaire françoise. La profession en fait a connu des malaises, hein. Ça, on est tous au courant de ce genre de choses. Et puis des tensions aussi, hein. Des tensions, des malaises. Pourquoi? On se pose la question. Sommes-nous de vrais professeurs? C'est vraiment une des questions récurrentes. Et puis des tensions, tout simplement parce que on a dans notre profession trois tendances, hein, que je schématiserai comme ceci. D'un côté, les tenants du documentaliste plutôt proche, hein, du bibliothécaire qui fait beaucoup, qui passe son temps à faire de la gestion, accueille les élèves, certes, et puis mais surtout gère les affaires courantes. Ensuite, le documentaliste non enseignant, hein, c'est un deuxième courant, le documentaliste non enseignant, qui gère des ressources de l'établissement, notamment de nos jours des ressources numériques. Et puis accompagne quand même les élèves, souvent sur le mode de l'individu, hein, un accompagnement individuel, et accompagne aussi ses collègues, hein, de discipline. On a même parlé d'experts auprès du chef d'établissement. Et certains même voient le documentaliste comme quelqu'un qui peut faire de l'ingénierie, hein, notamment l'ingénierie des TIS. Et puis les tenants du professeur documentaliste, hein, celui qui vraiment éduque ses élèves à l'information dans des cadres qu'on veut un peu plus structurés, tout en continuant quand même à gérer les ressources. Alors, comment vois-tu, toi, Françoise, la position de l'institution par rapport à ces tensions quand même que vit notre profession?
Alors moi, je dirais que par rapport à ce que tu proposes comme profil, en quelque sorte, hein, à partir des volontés de certains collègues d'être plutôt tel ou tel, sur tel ou tel profil professionnel, je dirais que les tendances du documentaliste proche du bibliothécaire, etc., c'est avant le CAPES, normalement. Hein, on n'était effectivement pas des personnels enseignants, et effectivement, on gérait une bibliothèque, et là, on gère une bibliothèque comme on pourrait gérer une mini médiathèque publique ou une mini bibliothèque universitaire sans formation des étudiants. Donc ça, c'est plutôt, je dirais, mais là, évidemment, les collègues qui sont sur cette position-là, je dirais que quelque part, ils adoptent une position qui est issue d'histoire et d'une histoire d'une institution qui, à l'époque, bon, avait répondu à des besoins au niveau des professeurs, des besoins au niveau du travail autonome et ne nous voyait pas plus que, effectivement, des adjoints d'enseignement, mais bon, non enseignants. Les tenants du professeur documentaliste qui éduque les élèves à l'information en gérant les ressources de l'établissement, normalement, c'est le profil du CAPES, y compris des épreuves du nouveau CAPES encore à l'heure actuelle, hein, avec cette idée d'éduquer les élèves à l'information, on pourra y revenir. Et puis les tenants du documentaliste enseignant qui gère les ressources et tout, je dirais que c'est l'intention de professionnalisation, comme diraient les sociologues du travail, qui se manifeste à l'heure actuelle au niveau de notre institution et qui fait effectivement débat. Alors déjà, le débat est important entre la première et la troisième possibilité. Ça a toujours existé. Et en fait, on voit bien comment là, l'institution a joué un rôle. C'est-à-dire que, je dirais que, on a eu toute une période où l'institution n'avait pas vraiment de projet pour nous. Je dirais quelque part, nous, c'était nous qui faisions en quelque sorte, qui étions actifs, qui faisions la réflexion, qui avions des propositions. On était face à une institution qui ne voyait pas trop véritablement à quoi on servait, bon, qui prenait de temps en temps ce qu'elle pouvait prendre en fonction de ses réformes, hein, qui l'arrangeait. Mais quelque part, il y avait un dialogue et on pouvait espérer, par la conviction, par la négociation, faire évoluer les choses. Le point d'évolution important a été politiquement la circulaire de 86 et le CAPES, où là, vraiment, il y a une volonté de l'institution, comme il y en a eu une en 73 avec Fontanet. Et puis, je dirais que les choses ensuite se sont, jusqu'en, je dirais, en 2002-2003, se sont déroulées d'une manière qui n'a peut-être pas été celle qu'on attendait de l'institution. Sans doute parce qu'il n'y avait plus la volonté du ministère Jospin qui avait créé des postes, qui avait couvert tous les collèges de ZEB, qui avait couvert les postes de LP, etc. Et il y a des choses qui auraient dû être prises en compte après le CAPES, comme régler le statut des docs intégré dans le décret de 50 des autres certifiés. Donc du coup, leur fixer, même s'il était pondéré par le fait qu'on avait une fonction particulière, un horaire maximal qui n'a jamais été géré, qui du coup pose des tas de problèmes et constitue le malaise, parce qu'on ne peut pas avoir de reçu, parce qu'on n'est pas reconnu comme les autres dans l'accompagnement éducatif, même si là on a quand même obtenu quelque chose, parce qu'on sentait bien que le ministère avait besoin de nous, hein. Mais on voit bien qu'il y a des tas de choses qui n'ont pas été réglées, on sent bien qu'il y a eu des oppositions dans l'institution. Il est clair que le CAPES a été pris contre l'avis de la direction pédagogique, la DLC, ce qu'on appelle la DGESCO aujourd'hui, qui n'a pas été franchement, qui n'avait pas vraiment d'idée, qui n'a pas été vraiment mobilisée, puisque c'était plutôt la direction des personnels enseignants qui avait à gérer un problème statutaire, puisque c'était le CAPES. À cette époque-là, l'inspection générale fille scolaire, et en particulier Michel Pouplein, qui s'occupait de la documentation, n'a jamais caché son hostilité à la création du CAPES, elle l'a revendiqué. Michel Pouplein en étant en même temps pendant 5 ans président du jury de CAPES, mais ça, c'est pas mon problème, quelque part. Et puis, on a bien vu aussi comment, du côté du réseau du CNDP, qui jusque-là, quand même, avait joué un rôle important, parce que c'était l'appui technique, parce que c'était celui qui accueillait ou qui assurait nos formations, même insuffisantes, qui, même à une époque, nommait les documentalistes, on a senti que là, l'arrivée, du CAPES et le fait qu'on soit formé en UFM retirait au CNDP une forme de contrôle sur la profession. Donc, moi, j'ai appelé ça à l'époque, j'appelais ça, j'assume la formule, le triangle des Bermudes dans lesquels on était. Et puis, bon, ce qui fait qu'on a eu l'impression que la crise aidant, les successions d'alternance politique et autres, jusqu'à 97, où vraiment la DESCO, à ce moment-là, avec Bernard Tout-le-Monde, nous a donné un rôle dans les TPE, le CJS, etc. Et puis, on a rénové le CAPES vraiment avec Guy Pouzard. Il y avait toute une période de latence, en quelque sorte, où rien n'était fait pour gérer de façon volontaire les choses qu'il fallait faire aboutir pour qu'on soit véritablement des profs ayant un CAPES, mais ayant une place d'enseignant, y compris dans les textes. Et puis, à partir de 2002-2003, bon, au moment, on voit bien, au moment où on démarre la recherche, où on est reconnu par les universitaires, où on constitue des équipes qui maintenant ont une surface, une visibilité, y compris internationale, c'est le moment où, en revanche, l'institution, à travers l'arrivée à l'inspection générale de Jean-Luc Durepère, qui devient président du CAPES de documentation, là, manifeste une intention de professionnalisation qui n'est pas celle que souhaite une partie de la profession et qui donc va en fait commencer à gérer de nouveau des tensions qui n'existaient plus, qui étaient plutôt du domaine de la négociation et de faire évoluer les choses pendant un moment. Voilà. Et donc là, l'institution, à un moment, elle écoute, elle prend quand elle peut. À un moment, elle est un peu neutre ou elle laisse un peu passer les choses. À certains moments, elle prend des décisions positives. Et puis là, on a l'impression qu'il y a véritablement une intention contraire, en tout cas qui ne s'appuie pas sur un vrai débat et une vraie volonté de la profession.
Oui, alors des tensions qui se sont cristallisées autour de certains textes, hein, je pense aux textes autour de la politique documentaire, hein, dans les établissements scolaires. Il y a eu aussi des tentatives de mise en place d'une nouvelle circulaire. Qu'est-ce qui a fait en fait qu'il n'y ait pas pu y avoir, enfin, je veux dire, je vais parler de consensus peut-être, pour que justement une nouvelle circulaire soit mise en place, par exemple?
Alors bon, déjà la circulaire 86, comme celle de 77, nous reconnaît quand même un rôle de formation directe. Celle de 77 dit d'ailleurs, contribue directement ou indirectement à la formation des élèves au travail sur documents. Donc il y a vraiment un rôle pédagogique direct qui est déjà pensé à l'époque par Georges Talon, qui est renforcé dans le cadre de celle de 86, puisqu'on met cette mission en premier. On liste un certain nombre de premiers objectifs qui viennent d'ailleurs du module de Peretti et des formations MAFPEN à l'époque et qui viennent de nos propositions au niveau de la FADBEN à ce moment-là. Et puis, la politique documentaire telle qu'elle est proposée à partir du rapport de 2004, elle s'inscrit dans une logique différente. Alors certes, on a déjà abordé le concept avec le rapport dirigé par Guy Pouzard, l'information, documentation, milieu scolaire, qui est toujours d'ailleurs sur Savoir CDI et auquel j'ai participé. Mais l'idée de Guy Pouzard, en parlant de politique documentaire, c'est un ancien président d'université, c'est plutôt dans les BU qu'on avait des politiques documentaires à ce moment-là, n'était pas de limiter à la gestion, mais à travers cette notion de concept de politique documentaire, de proposer aux établissements de, chaque année, consacrer un temps précis dans le conseil d'administration à parler effectivement de l'usage des ressources documentaires pour toute la communauté. Donc c'était un outil stratégique, c'était pas en fait La même chose que ce que propose Jean-Louis Duperrey, qui en fait plutôt quelque chose de centré surtout sur la gestion, les politiques d'acquisition. D'ailleurs, la réaction de la profession a été de dire, mais il doit y avoir un volet formation dans la politique documentaire, d'où d'ailleurs l'ouvrage qui est paru à l'ADBS et qui formalisait beaucoup plus ce volet formation. Et puis pour la circulaire, ben là on est toujours sur le problème du mandat enseignant en fait. C'est ce mandat enseignant qui depuis le début bloque tout. Parce que ça bloque par rapport à la politique documentaire, puisqu'il n'est pas repéré véritablement dedans. Ça bloque par rapport à la nouvelle circulaire. Il y a une tentative en 96 avec la direction des lycées et collèges à la suite du congrès de Rouen, qui est bloquée quand il y a effectivement le mot contribue directement. En 2002, Bernard Thomas, qui est président de jury, remet un petit groupe au travail. Là, j'ai été interviewé à l'époque par Savoir CDI. Et j'en parlais, et il voulait en 3 séances renégocier une circulaire de mission qu'on avait mis 1 an et demi avec tous les partenaires syndicaux, les directions et tout, à gérer avec Yvon Robert, ce qui est quand même pas simple à ce niveau-là. Et puis là aussi, ça capote avant les présidentielles, et parce qu'il y a aussi ce problème-là. En 2004-2005, Jean-Louis Duperrey souhaite remettre en place aussi une circulaire de mission qui finalement ne va pas aboutir, mais en particulier parce que là, il y a un changement de ministre. Et qu'il n'y a pas volonté de continuer cette négociation. Et du coup, d'ailleurs, en 2005, comme il y a cet échec-là, ça correspond à l'apparition du protocole d'inspection des professeurs documentalistes, puisque faute de circulaire, ce protocole se veut une forme de référentiel métier, en creux, en quelque sorte, d'une circulaire qui n'est pas changée. Et puis, de nouveau, en 2009-2010, même du 2010 particulièrement. Là, c'est les efforts de la FADBEN, plus le collectif syndical auprès du nouveau directeur de la DGESCO, Jean-Michel Blanquer, qui est quand même un personnage qui a une grande surface, je dirais, une grande autorité, qui accepte de constituer un groupe de travailler avec ses services. Et le projet de circulaire a plusieurs variantes. La dernière, en juin 2010, est une variante qui dit les professeurs documentaires assurent à tous les élèves une formation. Bon, on peut supposer qu'effectivement, là derrière cette formule qui avait été obtenue, il y a eu une vision du cabinet du ministre, de la DGESCO et de toute façon, on le sait, une consultation de l'inspection générale qui a dû se méfier de cette formule qui pouvait introduire éventuellement une revendication de moyens pour pouvoir mettre en place cette affirmation. On peut le comprendre, mais ce qu'on ne comprend pas, c'est comment la DGESCO nous a envoyé aux différents représentants en janvier 2011 une circulaire qui reprenait un contribut simplement. Moi, je sais qu'à l'époque, j'ai essayé de discuter, en particulier avec Jean-Luc Duperrey, en disant, mais remettez au moins, il faudrait que le ministère remette au moins la formule de 77. On sait bien qu'il y a un clivage sur le terrain entre ceux qui veulent faire de l'éducation, l'information est avant tout le prof, et ceux qui veulent surtout travailler en accompagnement avec les collègues de discipline, en mettant contribut directement ou indirectement. On permet à chacun, en quelque sorte, de trouver une marge d'autonomie dans sa vision du métier ou ses conditions locales, alors que, et puis on permet aussi à ceux qui ont avancé sur le plan de la formation des élèves d'avoir une légitimité pour le faire. Et ça n'a pas pu se faire, puisqu'il n'y a pas eu consensus là-dessus et abandon de la circulaire. Donc on voit bien, depuis 1996, à chaque fois qu'il y a un projet, à chaque fois ça bute sur la reconnaissance d'un rôle direct du documentaliste pour la formation des élèves. Et c'est quand même le cœur du problème du métier aujourd'hui.